Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. C'est donc devant la police que Mathilde Panot devra s'expliquer. La patronne des députés de la France Insoumise à l'Assemblée nationale est convoquée après un communiqué sur le 7 octobre et une plainte déposée contre elle pour apologie du terrorisme. La veille, Jean-Luc Mélenchon, invité à Sciences Po Paris, a dénoncé le maccartisme, je cite, qui s'installe dans le pays après avoir été empêché de faire une conférence à Lille en fin de semaine. Le parti L'extrême gauche a fait de Gaza et du Proche-Orient l'axe principal de sa campagne, persuadé qu'il peut ainsi récupérer le vote des quartiers. Jean-Luc Mélenchon qui fracture son camp lorsqu'il compare le patron de l'université de Lille à Adolf Eichmann, dignitaire nazi. D'autant qu'à gauche, un autre candidat commence à voir son étoile briller. Raphaël Glucksmann, candidat des socialistes, qui talonne désormais la liste de la majorité. Où va Mélenchon? Jusqu'où ira Glucksmann? C'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Nathalie Chuc, vous êtes grand reporter politique au journal Le Point. Vous aviez signé il y a quelques mois ce portrait, Raphaël Glucksmann, le nouvel espoir de la gauche. C'était une question que vous posiez à l'époque. Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régionale EBRA. Avec nous ce soir, Mathieu Souquet. Vous êtes consultant, expert associé auprès de la Fondation Jean Jaurès. Enfin, Brice Teinturier, vous êtes directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos et enseignant à Sciences Po. Je renvoie à votre dernier sondage paru dimanche pour le journal Le Parisien France Info, selon lequel le RN est à 32%, Valérie Ayé à 16% et Raphaël Glucksmann à 13%. Nous allons revenir sur ces sondages. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. On commence par l'information de l'après-midi avec vous, Nathalie Chuc, la patronne des députés La France Insoumise convoquée par la police. Qu'a-t-elle dit ?
C'est suite au communiqué qui avait été diffusé par La France Insoumise, plus précisément par le groupe à l'Assemblée nationale La France Insoumise, après le massacre perpétré par le Hamas en Israël, et qui parlait de, je cite, « forces armées palestiniennes », ne parlant pas d'actes terroristes, et présentant ces actes comme étant une réponse à une politique de colonisation
israélienne. On le voit ce communiqué, hein. Une offensive armée de forces palestiniennes à mettre en perspective face à l'intensification de la politique d'occupation israélienne.
Et pour mémoire, on se souvient très bien que dans les jours suivants, à chaque fois qu'un dignitaire de la France Insoumise était invité dans les médias et qu'on lui posait la question « Le Hamas est-il un mouvement terroriste ?», la réponse était non. Est-ce que le Hamas est un mouvement de résistance ? La réponse était oui. Donc du coup, on peut imaginer qu'évidemment, c'est la suite de tout cela. Et d'ailleurs, à l'époque, ça avait provoqué une explosion de la coalition électorale de la NUPES avec un moratoire qui est en fait une façon de rompre sans dire son nom.
Mm-hmm. On peut peut-être préciser que cette plainte avait été déposée par l'association Jeunesse Française juive, qui a aussi ciblé Jean-Luc Mélenchon, dont nous allons parler ce soir, pour des propos qu'il a tenus à l'époque. Vive Gaza, gloire éternelle à ceux qui résistent.
Oui, et il était donc hier soir, vous l'avez dit en préambule, en conférence à Sciences Po Paris, et il a eu des propos un petit peu comme Macron qui avait dit qu'il vienne me chercher, disant mais je vois pas pourquoi Rima Hassan, numéro 7 de la liste, est convoquée et pas moi.
Ouais, donc c'est une convocation qui
arriver,
à laquelle il s'attend peut-être.
Il s'y attend, pour c'est entre les mains de la justice.
Nathalie Moret, sur cette convocation par la police, on peut quand même, c'est assez inédit, hein, franchement, la patronne d'un groupe d'opposition à l'Assemblée nationale qui doit rendre des comptes sur des propos tenus devant des policiers. On a une réaction de Jean-Luc Mélenchon, je crois, hein, qui dit un événement sans précédent dans l'histoire de notre démocratie. On sait dorénavant qui menace la liberté de conscience et pourquoi.
C'est vrai que c'est une mauvaise nouvelle pour la campagne de la France Insoumise dans le cadre de ces élections européennes. C'est évident, hein, être convoqué comme ça dans le cadre d'une enquête sur apologie du terrorisme, on va dire qu'il y a des nouvelles qui sont meilleures dans une campagne. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est que dès cet après-midi, ils ont essayé d'instrumentaliser cette convocation pour victimiser leur parti. Et c'est déjà quelque chose qu'ils font depuis quelques jours, parce qu'on voit que ce parti a axé sa campagne, vous l'avez dit, sur ce conflit israélo-palestinien depuis déjà deux mois. Mais on voit, et ça peut-être que vous allez pouvoir nous le dire, Brice, mais c'est quelque chose qui ne prend pas dans l'opinion. Ce conflit-là n'est pas un moteur, n'est pas une raison pour les électeurs, n'est pas un moteur pour aller voter pour les élections européennes. Donc Jean-Luc Mélenchon, lui, le sait, et du coup, en se victimisant et en disant regardez, notre liberté c'est de faire ça, mais on nous attaque, et alors que voilà, et si on nous attaque, c'est nous sommes les meilleurs opposants. C'est une façon de se victimiser et d'en appeler notamment, enfin de mettre le focus non pas sur le conflit israélo-palestinien, ouais, mais sur la liberté de parole, la liberté d'action, la liberté tout court.
Et ça, on va revenir dans un instant sur Jean-Luc Mélenchon et sa stratégie, puisqu'il a été dans l'impossibilité de faire une conférence à Lille. On va voir les images dans un instant. Il a pu tenir cette conférence à Sciences Po Paris, où il a été chahuté à son arrivée. Mathieu Souquer, sur ce principe qui consiste à pour une responsable d'opposition, Mathilde Panot, à dire ben voilà, je suis convoquée par la police. C'est normal parce que c'est de l'apologie du terrorisme ?
Alors, effectivement, ce qui fait désordre, en tout cas ce qui frappe, ce qui est une première, c'est d'avoir un représentant ou une représentante politique devant les forces de l'ordre. Ensuite, encore une fois, des représentants politiques devant rendre compte devant la justice du contenu de leurs propos. Ça a été récurrent avec Jean-Marie Le Pen, ça a été plus récemment encore récurrent avec Éric Zemmour. Donc on a parfois l'habitude de dérapages politiques, de dérapages verbaux qui peuvent conduire à des condamnations. D'accord. Là, on voit quand même que sur ce sujet-là, et indépendamment même de devoir rendre des comptes devant les forces de police, on voit qu'on a parfois une parole politique, hormis les dérapages xénophobes et antisémites de Le Pen père ou d'Éric Zemmour récemment, on a une parole politique qui parfois se libère et qui peut donner dans l'outrance ou dans l'excès. Et on a par ailleurs une opinion publique de plus en plus sensible, parce que évidemment, et les médias et les réseaux sociaux ont un effet de caisse de résonance sur les sujets politiques qui sont les plus touchy. Et là, en l'occurrence, on touche vraiment au cœur du réacteur.
Cette question intéressante, en quoi consiste exactement l'apologie du terrorisme ?
Alors, pour de vrai, je ne suis pas spécialiste de cette question et je suis plutôt confiant pour Mathilde Panot. Je n'imagine pas que Mathilde Panot soit pour de vrai condamnée dans le cadre d'un débat comme celui-ci. Mais encore une fois, on voit combien, et en particulier sur la question israélo-palestinienne, on voit combien avec les deux communautés françaises, c'est-à-dire la plus importante pour ce qui est de la communauté juive et idem pour la communauté musulmane, on voit dans le contexte combien tout ça est un peu abrasif.
Brice Saint-Thierry.
Les esprits s'échauffent.
Oui. La stratégie de Jean-Luc Mélenchon, elle est assez simple. Les européennes ne comptent pas. Il enjambe les européennes. Il est sur un calcul, je pense, de plus long terme de la présidentielle, sur une grille de lecture dominant-dominé et sur la volonté de radicaliser le vote des banlieues, le vote musulman et le vote des jeunes. D'une certaine façon, ce qu'il applique, c'est la stratégie de Terra Nova de 2011 qui avait été théorisée à l'époque par Olivier Ferrand. Il faut s'appuyer non pas sur les milieux populaires, mais sur les couches diplômées, les jeunes, les minorités, etc. Il y ajoute malgré tout le côté, pas simplement abrasif, le côté aux yeux des Français, antisémite.
C'est la question que je voulais vous poser. On va parler stratégie électorale, sondage, etc. Mais sur le fond de ce qu'ils disent, de ce que dit Mathilde Panot, de ce qu'assume Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il est en phase avec une partie de la société française ?
Non,
ce sont des propos antisémites.
C'est ce que les Français considèrent. Ouais. On avait fait une grosse enquête avec Le Monde en octobre, après Gaza, où on avait interrogé justement sur les prises de position de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Le jugement des Français, pour plus des deux tiers d'entre eux, c'était que soit ces propos, ceux que vous avez rappelés, révéler l'antisémitisme de Jean-Luc Mélenchon lui-même, soit, s'il n'était pas lui-même antisémite, aggraver la confusion et provoquer l'antisémitisme. Et il n'y avait qu'une petite minorité qui considérait que c'était des propos de critique politique qui pouvaient être légitimes. Donc, en gros, les Français nous disaient « il est antisémite ou c'est un pompier incendiaire ?» Le deuxième élément, c'est que quand vous demandez aujourd'hui aux Français des items sur si jamais Jean-Luc Mélenchon était élu demain président de la République, qu'est-ce que vous ressentiriez ? C'est assez révélateur, on l'a fait pour la Tribune dimanche. Les trois premiers termes, c'est « inquiétude », peur, honte. Ensuite, vous avez indifférence, oui, honte. Et très loin derrière, espoir ou satisfaction. Ce sont des termes qu'on pose aussi pour Marine Le Pen et qui ne donnent pas du tout le même résultat. Les termes négatifs sont beaucoup moins élevés pour Marine Le Pen que pour Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que l'opinion publique, pour répondre à votre question, elle condamne sévèrement le positionnement, la radicalisation et ce que dit et fait aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon.
Y compris sur ce sujet-là.
Surtout sur ce sujet-là.
D'accord.
C'est pas vraiment.
Le
point de bascule, il y avait déjà une radicalité extrêmement forte. Elle était encore dans l'espace des gauches considérée comme utile ou en tous les cas légitime, respectable, on va dire. Là, depuis le 7 octobre, il y a autre chose qui s'est fait. Et le sentiment majoritaire des Français, il y a une petite minorité, et notamment le cœur des sympathisants France Insoumise qui suivent totalement Jean-Luc Mélenchon dans cette grille de lecture. Mais le sentiment majoritaire, c'est celui d'une outrance et c'est celui de quelque chose qui n'est pas admissible. Du coup, on en reparlera, ça provoque des effets aussi électoraux. Mais encore une fois, je pense que l'objectif de Jean-Luc Mélenchon là, c'est vraiment de capitaliser sur le socle.
Est-ce que c'est un sujet de campagne des européennes ? Parce que on l'a vu avec le choix de la septième candidate sur la liste, qui est, comment j'ai oublié son prénom, Rima Hassan, qui est au cœur aussi à chaque fois dans toutes ses interviews de polémiques liées à ces sujets-là. Est-ce que c'est un sujet des européennes aux yeux des Français ?
Gaza et Israël, non. L'Ukraine, un peu seulement pour certains électorats, mais Gaza, non. C'est un sujet, encore une fois, qui permet de connoter la France insoumise, qui lui permet d'accrocher un positionnement, de se radicaliser, de miser sur un segment de l'électorat. Ouais. Mais pas pour les européennes, ça ne marche pas pour les européennes. Ouais. Je pense, encore une
c'est
fois, il l'a dit Jean-Luc Mélenchon, les européennes, c'est le premier tour de la présidentielle. Faites-en le premier tour de la présidentielle. Donc, il n'en a, pardonnez-moi, rien à faire du résultat des européennes. Son objectif, c'est la présidentielle, et c'est de maintenir comme ça
On va en reparler de sa stratégie et voir si ça fonctionne. Certains s'interrogent en tout cas cette stratégie de Jean-Luc Mélenchon. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée, on l'a dit, a été convoquée par la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. L'affaire est inédite, elle est mise en cause, en tout cas c'est ce que dit la France Insoumise, elle est mise en cause après ses propos sur l'attaque du Hamas le 7 octobre. Le parti a décidé de faire de la crise au Proche-Orient et de la situation à Gaza un axe de sa campagne. Jean-Luc Mélenchon, hier soir, lui, s'est fait applaudir dans l'amphi de Sciences Po Paris après une interdiction à Lille et une énième sortie de route. Constance Meyer et Christophe Roquet.
Il aime le bruit et la fureur, il a été servi.
Mélenchon, collabo ! Mélenchon, collabo !
Pro et anti-Mélenchon hier soir devant les portes de Sciences Po. Invité à parler devant un parterre d'étudiants, le chef de file des Insoumis savoure l'instant. Comme une revanche, après plusieurs conférences annulées.
Que mes premiers mots soient pour la direction de cet établissement qui a permis que se tienne notre rencontre. Au contraire, d'autres qui, cédant aux pressions que par ailleurs ils dénonçaient, se sont mis à genoux. L'ennemi n'est pas seulement l'extrême droite, son obscurantisme, son racisme, et c'est pour ça que c'est un obscurantisme, mais c'est l'immense chaîne des lâchetés, de ceux qui cèdent avant d'avoir combattu.
Une allusion à peine voilée au président de l'Université de Lille qui a annulé sa prise de parole au sein de l'établissement pour des raisons de sécurité. Jeudi dernier, privé de conférence, Jean-Luc Mélenchon investit la rue et dresse un parallèle entre le président de la faculté et le nazi Adolf Eichmann, l'un des organisateurs de la déportation.
Moi, je n'ai rien fait, disait Eichmann. Je n'ai fait qu'obéir à la loi telle qu'elle était dans mon pays. Alors ils disent qu'ils obéissent à la loi. Et ils mettent en œuvre des mesures immorales qui ne sont justifiées par rien ni personne. Celui qui a cédé, président de l'université, dont on me dit que par ailleurs c'est un brave homme, ce que je veux bien croire. Il s'est aplati, il s'est couché.
De quoi provoquer un tollé immédiat dans toute la classe politique.
Quelle odieuse comparaison. C'est la lumière mise sur vos propos qui révélera à quel point ils sont nauséabonds.
Monsieur Mélenchon, aujourd'hui, a basculé depuis longtemps. Moi, je suis un républicain, il ne l'est plus.
Je ne me retrouve plus du tout dans Jean-Luc Mélenchon, puisque ses propos excessifs discréditent tout le reste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il compare un professeur d'université à un nazi. Il m'a moi-même comparé à un nazi. Il est discrédité. Je peux rien dire. C'est indéfendable ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Indéfendable.
Jean-Luc Mélenchon, la stratégie du coup d'éclat, sur la forme et sur le fond. Accusé de jouer la carte du communautarisme.
Des élèves peuvent être indisposés par certains cours, quelle que soit leur confession.
Pour la campagne de LFI aux européennes, il choisit la franco-palestinienne Rima Hassan pour incarner la position clivante du parti.
Le Hamas mène une action légitime.
Vrai.
L'État d'Israël a un droit de défense.
Faux.
Des prises de position pour lesquelles la candidate est convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Embarras au sein même de LFI. Et certains envisagent déjà l'après-Mélenchon. L'équipe de François Ruffin a fait fuiter dans Libération un sondage dévoilant ses ambitions et sa popularité. Au deuxième tour de la présidentielle, dans un duel face à Marine Le Pen, le député de la Somme ferait bien mieux que son chef.
Il est évident que je me prépare, et avec d'autres, qu'on se prépare. Maintenant, vous savez, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Hein, j'ai fait un peu d'athlétisme. Je sais combien on saute une haie l'une après l'autre.
La France insoumise ou la polémique permanente. Cet après-midi, Mathilde Panot, la présidente du groupe à l'Assemblée nationale, vient elle aussi de recevoir une convocation pour apologie du terrorisme suite à un communiqué publié après l'attaque du 7 octobre.
Nathalie Chouk, vous avez suivi cette conférence à Sciences Po.
Ouais, j'ai écouté du début à la fin et c'était fascinant de voir à quel point Jean-Luc Mélenchon jubilait. Jubilait d'être applaudi puisqu'il était extrêmement applaudi, tenant des propos parfois un peu confus, il faut dire les choses, quand même s'enfermant un peu dans une pensée assez obscure, tenant, enfin c'était assez décousu. Mais je retiens cette jubilation, pourquoi ? Parce que j'ai le sentiment que ces interdictions de conférences, ce qui s'est produit à Lille, au fond ça le sert. Parce que qui aurait parlé de ces conférences sinon ? Hier soir, sur YouTube, à suivre cette conférence en entier, il y avait 10 000 personnes. C'est relativement peu.
Ce sont des conférences sur quoi ?
Alors c'était pas une conférence sur Israël-Palestine, mais vous voyez bien qu'à chaque fois il y avait une question qui arrivait. Il y a notamment un étudiant qui est intervenu, un étudiant palestinien inscrit à Sciences qui est intervenu posant une question en anglais, et à chaque fois Mélenchon disait, vous voyez, c'est pas moi, hein, c'est pas moi qui pose la question, vous voyez bien quand même que c'est un sujet. Donc il savoure le moment, parce qu'on parle de lui, ça le met au centre du jeu, ça le victimise. Donc du coup ça permet de dire à son électorat, vous voyez, vous êtes des victimes vous aussi, et ben moi aussi, donc je vous représente mieux que quiconque. Donc de ce point de vue là c'est tout à fait fascinant, il joue une stratégie vraiment, et on reviendra sur sa stratégie électorale, mais pour moi il est à peu près évident qu'il a fait une règle de 3, un calcul électoral, en se disant, voilà, il y a tant d'abstentionnistes en France, il y a tant d'électeurs qui ne votent pas dans les quartiers. Si je prends tous ces électeurs et que je considère qu'allez, on va dire à tant de pourcents, ils votent pour moi, je peux réussir à combler les 420 000 voix qui m'ont manqué pour me qualifier au second tour de la dernière présidentielle. C'est rien, 420 000.
Mais bon, on va le passer tout de suite, cet extrait, vous l'avez tous en tête. Le soir de l'élection présidentielle, on va l'écouter. Il avait quand même donné le sentiment de tourner la page.
Alors, bien sûr, les plus jeunes vont me dire... Eh bien, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin. Hein. Faites mieux.
Bon, faites mieux. Ils ont tous compris, c'est le tout. En fait, non.
Hein, il considère...
C'est ça.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a dans les déclarations présentes de Jean-Luc Mélenchon un coup tactique par rapport à la présidentielle de 2027.
D'accord.
Sur la stratégie du clivage, du coup d'éclat, du chaos, il y a bien deux dimensions.
Vous parlez de stratégie du chaos dans ce qu'il est en train de faire, là ?
Depuis quelques années, oui.
Ouais.
Et depuis quelques années, cette stratégie est conscientisée, elle est assumée. Il s'agit précisément de capter une partie de la colère, une partie du ressentiment qui s'exprime dans le pays et qui fait pour partie le jeu électoral de Marine Le Pen. Donc dire, puisque cette colère existe, je vais l'exprimer, je vais même la surjouer, et en la surjouant, je vais pour partie la capter, la canaliser, peut-être même la contenir. Ça, pour le coup, ça tient du duel avec l'extrême droite. Et encore une fois, de ce que la colère, de ce que le ressentiment, en fait, peuvent être des ressorts électoraux désormais très puissants. La deuxième dimension, l'autre stratégie du clivage, et en particulier en insistant sur la question du conflit israélo-palestinien, c'est celle du clivage à l'intérieur de la gauche. Jean-Luc Mélenchon a eu besoin de la NUPES il y a 2 ans pour élargir les bases de la gauche parlementaire, avoir le maximum de députés, et par ailleurs, éventuellement, se propulser à Matignon. Aujourd'hui, il n'a non seulement plus besoin de la NUPES, mais il doit tuer la NUPES, parce que précisément, il sait qu'il ne peut pas être le candidat de la NUPES au présidentiel de 2027. Donc il doit contourner la NUPES, et
quand il y a sa stratégie électorale, une forme d'habileté, on va y revenir avec vous, avec peut-être des éléments chiffrés, mais quand il compare le patron d'une université à Adolf Eichmann, c'est quoi ? C'est une dérive ? C'est une sortie de route sur le mode de la République, c'est moi ?
Alors, sans aucun doute que Jean-Luc Mélenchon est capable de sortie de route, il est comme plein de gens, capable de débordements un peu caractériels. Encore une fois, je maintiens qu'il peut s'agir d'une stratégie, car c'est un fin stratège, et encore une fois, de cliver à gauche. Parce que là, pour le coup, tout le monde réagit et tout le monde surréagit. Ouais. L'enjeu pour Jean-Luc Mélenchon, c'est que la NUPES explose, mais que les autres semblent être les responsables de cette explosion.
Et on a vu les réactions, y compris d'un ancien partenaire, hein, Fabien Roussel, qui a donné le sentiment de dire « bon, maintenant, on l'a perdu ». Hein. Il était assez sévère dans la réaction qu'on a entendue. Oui,
mais juste pour rebondir aussi sur comparer ce président d'université à Adolf Eichmann, celui qui a mis en œuvre la solution finale, ça participe d'une stratégie, sans doute, mais d'une stratégie de la confusion. C'est véritablement inverser les responsabilités, travestir des réalités, insulter aussi, je pense, ceux qui ont été véritablement les victimes de cette solution finale. Donc pas seulement ce professeur d'université, ce recteur, mais aussi tous ceux qui ont été victimes d'Eichmann. Et là, je crois qu'on est dans une stratégie, oui, du chaos, vous avez raison, et de la confusion entretenue. Maintenant, est-ce que c'est une stratégie payante? Quand vous avez fait 22% à l'élection présidentielle, votre enjeu, c'est d'élargir, c'est pas de vous rétracter sur votre socle. C'est ce que fait Marine Le Pen, et ça marche. C'est Marine Le Pen qui a été qualifiée au second tour et qui a fait 42%. Aujourd'hui, tous les indicateurs nous montrent l'inverse, que cette stratégie mène Jean-Luc Mélenchon plutôt à un repli sur son noyau. Et vous avez au sein même de la France insoumise Ruffin qui est en train de le talonner sur le positionnement, sur la popularité, sur la crédibilité. Donc il y a certainement une stratégie. Moi je pense juste qu'elle est suicidaire pour la France insoumise et pour Jean-Luc Mélenchon.
Quand vous voyez ces hypothèses de ce sondage qui a été commandé visiblement par l'équipe de François Ruffin pour démontrer qu'il est une alternative à la France insoumise, qu'est-ce qu'on peut en penser? On va aller voir ces chiffres-là. Donc avec deux hypothèses du premier tour pour la présidentielle de 2027. Effectivement, s'il était candidat, Jean-Luc Mélenchon ferait 18%, et s'il était candidat, François Ruffin ferait 29%.
Eh bien, quand vous
vous positionnez... Vous n'êtes pas surpris quand vous avez découvert
ces chiffres-là? Ah non, pas du tout. Dans notre baromètre pour la Tribune, on voit très bien aussi que sur les indicateurs de meilleurs opposants, sur les indicateurs de satisfaction s'il était élu président de la République, Ruffin talonne ou dépasse Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est assez logique. Quand vous vous positionnez comme un social-démocrate qui vient de la France insoumise, vous récupérez une partie de la radicalité et en même temps, vous êtes dans un positionnement d'élargissement. Ouais. Ce que fait Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas ça. C'est à l'intérieur de la radicalité, il se radicalise encore plus. Donc il est assez logique que Ruffin puisse capitaliser et élargir.
Il est une gêne aujourd'hui pour son parti. Il embarrasse son parti.
Il embarrasse une partie de son parti.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a une partie de son parti qui pense qu'effectivement, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est devenu, excusez-moi du terme, mais un boulet. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, là, tout de suite, il fait le pari du temps long. Il sait qu'on est dans une société très clivée où une information chasse l'autre. Et le fait d'avoir une succession comme ça de petites réflexions ou de propos même très gênants, le mettre, vous avez tout à fait raison, Nathalie, au centre du jeu et le font apparaître comme quelqu'un qui s'oppose à la Macronie, qui est là, qui est présent et qui endosse encore une fois la parole de celui qui parle le plus fort face au pouvoir en place. Donc je pense que c'est tout ça, c'est complètement conscientisé. Il est probable qu'un certain nombre de réflexions, moi, Eichmann, je ne suis pas complètement certaine que ce soit quelque chose qu'il ait prévu, parce qu'il est capable de débordements, on le sait. En revanche, de tenir des propos extrêmement clivants pour avoir la lumière sur lui, je pense que c'est un calcul tout à fait conscientisé. La preuve, aujourd'hui, vous faites une émission là-dessus, sur pourquoi fait-il ça, est-ce que ça peut être payant, est-ce qu'au sein de son parti, il peut y avoir d'autres positionnements, voilà.
Donc, est-ce qu'il joue la question? On va parler tout à l'heure d'un phénomène des séries, autour d'une série qui s'appelle La Fièvre, qui passionne les politiques, avec des personnages du film qui jouent beaucoup sur cette rupture identitaire. Lui, il a par le passé été du côté des Républicains. Est-ce qu'il joue cette fracture identitaire?
Évidemment, il joue la stratégie, vous l'avez très bien dit, de la confrontation, c'est théoriser, c'est penser. Il verra bien que la société est complètement, pour citer un de vos invités fréquents, totalement archipélisée. C'est très intéressant ce que vous disiez sur François Ruffin. Qu'est-ce qu'il fait François Ruffin? Évidemment que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, il embarrasse considérablement son camp et il embarrasse toute la gauche. Parce que la gauche social-démocrate, aujourd'hui, se dit, tant qu'il est là, il a 72 ans, tant qu'il se présente, c'est foutu pour nous, on n'y arrivera pas, on ne reviendra pas au pouvoir. Donc, il faut que quelqu'un tienne la dague et tue le père. Et qui est en situation aujourd'hui de tuer le père à LFI? C'est François Ruffin. Donc, ce sondage, en fait, c'est l'installation sur le pas de tir de la fusée Ruffin. Est-ce que ça ira jusqu'au bout ou pas? Est-ce que ça finira en crash, genre fusée Tesla? J'en sais rien du tout. Mais on voit bien que la deuxième étape, c'est quoi? C'est au soir des européennes, après un score qui ne sera pas forcément excellent, de dire maintenant c'est fini. On imagine tout à fait François Ruffin intervenir à 20h05, disant maintenant. Il faut que M. Mélenchon cède la place. Et effectivement, contrairement à ce que fait Mélenchon, qui se rétracte, prend ce risque, parce que ce qu'il gagne d'un côté, peut-être dans un électorat des quartiers, il le perd dans un électorat plus raisonnable, qui était venu vers lui. Ruffin, lui, il élargit. Il dit, je suis social-démocrate. Voilà, je veux tendre la main à des gens. Je suis un insoumis, mais je suis capable de tendre la main, on va dire, jusqu'à des gens qui vont, peut-être, soyons fous, au centre-droit.
Il y a une différence fondamentale sur le fond entre ces deux-là?
en tout cas pour la première fois, il y a une opposition publique officielle. Ouais. Alors souvenons-nous encore une fois qu'avant 2022, Jean-Luc Mélenchon s'était rendu coupable de dérapages très réguliers. Au-delà même de La République, c'est moi, enfin, je veux dire, ouais. il alimentait la chronique. Ça ne l'a pas empêché d'être à 22%. Et on avait fait une enquête avec la Fondation Jean Jaurès juste après l'élection présidentielle où on avait montré que quasiment un électeur sur deux de Jean-Luc Mélenchon du premier tour considérait qu'il était dangereux, que le vote utile avait pu s'exprimer. Malgré cela, on était 46% des Français pour être précis, alors considérait non pas qu'il était explicitement dangereux, mais qu'il avait un rapport complexe et dangereux à la démocratie. Ça ne l'a pas empêché, encore une fois, de capter l'essentiel des voix à la présidentielle de 2022. Donc il se dit qu'on peut continuer de déraper et en réalité être le recours à la présidentielle de 2027. Mais effectivement, pour la première fois dans le mouvement, depuis la reprise très autoritaire du mouvement La France Insoumise il y a quelques mois, il y a désormais en fait des voix dissidentes qui osent publiquement s'exprimer. On sait que François Ruffin, comme Clémentine Autain ou quelques autres, depuis déjà longtemps, pensent qu'il est un boulet pour son camp. Désormais, ils le disent et ils s'organisent. C'est ça la grosse différence.
Raquel Garrido l'avait dit. Elle avait dit il n'a fait que nuire.
Absolument.
Il a eu ses propos très forts. Quand même.
Venant de très proches, d'anciens très proches.
Est-ce qu'il veut, Mélenchon. Vous iriez jusqu'à dire qu'il veut, avec une arrière-pensée électorale, qu'il veut jouer sur cette colère des quartiers, réveiller, puisque vous disiez, il croit à la colère pour, au fond, susciter du vote et de l'adhésion. Est-ce qu'il veut réveiller ou instrumentaliser une colère
Mais je ne dirais pas que la colère des quartiers. Je pense qu'encore une fois, son calcul, c'est que la colère est le sentiment dominant dans le pays, que c'est ce qui fait précisément le carburant électoral de l'extrême droite. Et depuis le départ, souvenons-nous qu'il avait quand même eu le courage, en 2012, d'aller affronter Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, avec un échec cuisant à la fin, mais depuis le départ, quand même, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est que son adversaire ultime reste bien l'extrême
droite. Il ne joue pas du tout sur la même colère. Une colère sociale davantage pour Marine Le Pen. Elle joue sur cette colère sociale, ce sentiment de déclassement, d'abandon. Lui, il est pas sur ce terrain-là,
François Ruffin. On peut pas dire que Jean-Luc Mélenchon ait pour autant délaissé la question sociale. Je veux dire qu'il y a des arrière-pensées électoralistes de Jean-Luc Mélenchon parce que la France insoumise compte beaucoup de députés, d'ailleurs, dans tous ces quartiers de Seine-Saint-Denis. Ouais. Et d'ailleurs, ce sont eux, aujourd'hui, quand même, les élus de ces quartiers-là. Clémentine Autain, Alexis Corbière et les autres. Donc, rappelons-le quand même, la France des banlieues, elle est avant tout aujourd'hui représentée à l'Assemblée par les députés de la France insoumise. Donc, il y a cette arrière-pensée-là, mais je pense qu'encore une fois, cette pensée-là, cette stratégie est plus globale. Plus globale.
Ce que je veux dire, c'est que François Ruffin lui donnait le sentiment d'être plus proche de cette réalité sociale, de son bastion, qui est le bastion plutôt des terres du Nord, de la France.
C'est vrai, il assume d'aller sur la question sociale et il assume un recentrage tactique pour essayer de désormais d'occuper l'espace et peut-être d'affronter Jean-Luc Mélenchon.
Oui, Saint-Chaillet.
Deux petites choses. Si c'est une stratégie délibérée, ce que nous disons tous, il faut arrêter de parler de dérapage. Parce que pour le coup, ce ne sont pas des dérapages, ça rentre dans une stratégie de radicalisation. Mais surtout sur la question de la colère. Moi, je ne crois pas du tout, tous nos indicateurs nous disent le contraire, que les Français soient en demande d'une situation insurrectionnelle ou révolutionnaire. C'est tout l'inverse. Qu'il y ait du mécontentement et de la colère, c'est indiscutable. Mais les solutions attendues par les Français, ce ne sont pas des solutions de chaos ou de violence, ce sont des demandes d'apaisement. Ce que fait le RN, encore une fois, c'est de jouer la carte de l'apaisement et ça semble marcher. Donc c'est là où la stratégie de Jean-Luc Mélenchon est quand même très étrange. La colère, le mécontentement exige, je suis le premier à le dire, à le répéter, et à des niveaux même extrêmement importants. Mais c'est pas ça l'enjeu, ou la question centrale, c'est qu'est-ce que les Français, une fois qu'ils ont exprimé cette colère et ce mécontentement, veulent fondamentalement. Et là, vous avez deux possibilités. Soit Jean-Luc Mélenchon qui pense que cette colère, si on l'attise, peut déboucher sur un mouvement insurrectionnel. Vous n'avez pas besoin d'être majoritaire à ce moment-là. Il y a une cohérence. Vous attisez la violence, vous jouez sur la colère, parce que vous avez un arrière-plan qui est un arrière-plan révolutionnaire. Et il y a aussi ça chez Jean-Luc Mélenchon.
Dégagez-les tous, il y avait à un moment donné cette campagne.
Et puis voilà, tout à fait. Et puis et vous n'avez pas besoin, encore une fois, d'avoir une majorité. C'est pas le jeu des urnes, ça. C'est la révolution. Soit vous jouez la carte électorale, et à ce moment-là, il faut obtenir quand même une majorité, être qualifié au second tour et obtenir une majorité dans notre système. Et là, il faut être capable de prendre en compte la demande qu'il y a derrière la colère. Et c'est, encore une fois, pas du tout, me semble-t-il, ce que fait efficacement Jean-Luc Mélenchon.
La question intéressante, c'est que veulent les Français et que veut Jean-Luc Mélenchon? Qu'est-ce qu'il cherche, au fond? On n'en sait rien. Est-ce qu'on est capable de répondre à cette question? Est-ce qu'il veut être élu président de la République, Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'il veut être face au second tour, face à Marine Le Pen, pour droite, le chef de l'opposition. Est-ce qu'il veut une insurrection ? Il dit tout le temps qu'il veut une 6e République, mais qu'est-ce qu'il cherche ? Au fond, moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Je pense que ça nous permettrait de comprendre et d'éclairer complètement sa stratégie, parce que je pense qu'il est plutôt en ce moment dans une stratégie insurrectionnelle.
L'autre schéma, ce qu'il laisse entendre, ce qu'il dit, ce qui se dit à la France insoumise, c'est qu'il considère que s'il se retrouve au second tour face à Marine Le Pen, les classes moyennes, les bourgeois, les bobos voteront pour lui. Mmh. Et que donc sa stratégie de radicalité, elle est aujourd'hui refusée, décriée, etc., mais qu'elle sera payante dans un face-à-face face à Marine Le Pen. Et je crois qu'il se trompe, là encore, totalement. C'est-à-dire que sur un affrontement Mélenchon-Le Pen, c'est Le Pen qui ramasse la mise.
On parlait tout à l'heure du meilleur opposant Emmanuel Macron et à son gouvernement. Il reste, aux yeux des Français, le principal opposant au gouvernement. Il arrive à 21%. Derrière, il y a François Ruffin à 18%. Oui. Fabien Roussel à 14%. Alors là, on parle évidemment des élus de gauche. Il reste en tête à gauche pour incarner l'opposition.
Oui, parce que sur cet indicateur, vous avez une prime à celui qui parle le plus
d'accord,
fort.
D'accord, ok.
Donc c'est lui. Et ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution. Et l'évolution, c'est plutôt Ruffin qui monte.
Mmh. Alors Glucksmann, dans ce classement-là, est à 13%, puisqu'on va en parler maintenant. Il n'est plus totalement tout seul à gauche, Jean-Luc Mélenchon. Lui a pris plus de 3 points dans les sondages en un mois. Les intentions de vote pour la liste de Raphaël Glucksmann, candidat Place Publique et Parti Socialiste, donnent des sueurs froides, notamment au camp d'Emmanuel Macron et aussi à la France Insoumise. L'intellectuel qui a fondé son micro-parti en 2018, engagé dans des combats pour la défense des droits humains, a fini par endosser les codes de l'animal politique. Laura Rado avec Juliette Vallon et Pierre Dehorn.
C'est l'homme qui monte et qui pourrait créer la surprise. La petite musique s'installe. Même si le RN fait la course en tête, Raphaël Glucksmann s'invite sur le podium des européennes et fait de nouveau rêver la gauche.
Il y a une espérance, il y a une attente, il y a quelque chose qui est en train de naître et c'est à nous de faire grandir cette chose.
Petit à petit, la tête de liste des socialistes aux européennes grimpe dans les sondages. Parti sous la barre des 8%, Raphaël Glucksmann est aujourd'hui à 13% et se rapproche de la liste macroniste, dont il veut convaincre les déçus en réactivant le clivage gauche-droite.
Vous savez quoi ? Je vais vous dire un truc que peut-être les gens ne savent pas en France. Ce clivage gauche-droite, il n'a jamais disparu à l'échelle européenne. Ouais. Ce qui s'est passé en France n'était peut-être qu'une parenthèse. Et ce que nous faisons, nous, c'est de ressusciter la gauche de Jacques Delors et de Robert Badinter.
Aujourd'hui à l'aise dans le costume de candidat, ses débuts en politique n'ont pas toujours été aussi simples. Issu d'une famille d'intellectuels, Raphaël Glucksmann est tour à tour journaliste, documentariste, conseiller du président géorgien, avant de se faire connaître pour ses combats en faveur des minorités ouïghours. Ce n'est qu'en 2019 qu'il descend dans l'arène politique. Hésitant, presque intimidé.
Waouh !
5 années au Parlement européen vont forger sa nouvelle stature d'homme politique. Soutien indéfectible de l'Ukraine, Raphaël Glucksmann appelle aujourd'hui la France à entrer en économie de guerre.
Ce qu'on devrait faire, si on avait un leadership courageux qui comprend les enjeux, eh bien on devrait aujourd'hui passer en mode économie de guerre sur la production. On devrait passer des contrats à long terme avec nos industriels, ce qui n'est toujours pas fait. Si nous ne le faisons pas maintenant et que le front ukrainien s'effondre, les questions que nous devrons nous poser dans un an ou dans deux ans seront infiniment plus douloureuses que celles que vous nous posez.
Un ton et un discours résolument offensifs. La rupture est consommée avec les troupes de Jean-Luc Mélenchon, qui se moque ouvertement de ses soutiens.
J'ai vu hier un meeting à Nantes, Jean-Marc Ayrault. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'était le premier ministre de François Hollande. On a tendance à vite oublier.
Bonjour. Merci d'être avec
François Hollande, qui lui savoure la percée de Raphaël Glucksmann, synonyme d'espoir pour la gauche social-démocrate.
Et donc il va falloir recréer au lendemain des élections européennes une grande famille politique, celle de la social-démocratie, qui doit être la plus grande à gauche et qui doit réunir toute la gauche.
Donc vous mettez ça sur le dos de Raphaël Glucksmann, il a ça en plus de sa campagne
non,
à mener.
Non, mais lui il a mené une campagne européenne, mais si je peux donner l'après, je le fais ici devant vous. C'est qu'on
a trouvé Raphaël Glucksmann, dont la campagne fait aussi et surtout de l'ombre à celle de la majorité.
on partage beaucoup de nos votes, ils votent beaucoup comme nous, mais la vraie capacité d'influence, elle est chez nous, et je regrette par ailleurs que à Bruxelles on vote la même chose, mais qu'il reste inféodé au PS sous la coupe de Jean-Luc Mélenchon.
Entre le RN et la majorité, Raphaël Glucksmann tente donc de faire exister une troisième voie. Alors, vraie dynamique ou feu de paille ? En 2019, sa liste avait recueilli à peine plus de 6%.
Et cette question de Louis dans le Maine-et-Loire, en quoi Raphaël Glucksmann se distingue-t-il de la gauche PS de François Hollande ?
D'abord, il n'est pas associé à l'exercice du pouvoir tel qu'il a été pratiqué entre 2012 et 2017. De ce point de vue-là, c'est pratique. Si, il est quand même étiqueté dans l'opinion comme un candidat, si ce n'est issu de la société civile, en tout cas qui n'appartient pas au système partidaire. Donc ça aussi, c'est un avantage. C'est quelqu'un qui bénéficie d'une notoriété assez forte. Sur les réseaux sociaux, par exemple, il est ultra suivi. C'est un vrai influenceur politique. Donc ça aussi, pour le coup, ça dénote. Un petit élément, on avait publié à la Fondation Jaurès aussi une note sur les gauches irréconciliables à l'époque où ça structurait le débat politique après une sortie de Manuel Valls. Il n'y a pas de gauche irréconciliable, ou en tout cas c'est ce qu'on avait montré à l'époque, c'est-à-dire que l'électorat de gauche veut l'union et considère qu'il est d'accord sur l'essentiel, qu'il y a des sujets de désaccord, mais que les sujets d'accord en fait l'emportent très largement. Sur les sujets de désaccord, il y avait précisément deux choses, les questions internationales, et donc là quand même avec les élections européennes, on voit qu'on peut cliver à gauche, et le style d'opposition, ce dont on parlait juste avant avec l'opposition extrêmement radicale et violente incarnée par Mélenchon, et un autre type d'opposition qu'un Raphaël Glucksmann par exemple, aujourd'hui ambitionne d'incarner.
Nathalie Chu, vous qui avez signé un portrait et un papier sur Raphaël Glucksmann, à l'époque vous vous interrogiez pour savoir s'il était, je ne sais plus quel est le titre, vous aviez donné...
Nouvel espoir de la gauche.
Voilà, nouvel espoir de la gauche. Je ne sais pas à quel moment vous l'avez écrit, mais aujourd'hui il talonne la candidate de la Macronie dans les sondages. La gauche l'a vu arriver, est-ce que c'est une comète ou l'étoile Glucksmann?
Au départ, pour retracer un peu l'historique, c'est Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, qui a l'idée en 2019 de prendre une figure qui n'est pas dans le sérail politique.
C'est ça, ouais.
Donc il va chercher quelqu'un qui est en fait un hybride d'homme politique et d'activiste en vérité, parce que c'est un activiste au Parlement européen aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître par son combat contre le génocide des Ouïghours, contre la fast fashion, en touchant beaucoup les jeunes, vous l'avez dit, 800 000 abonnés sur Instagram quand même, hein, c'est pas mince. Donc c'est Olivier Faure qui a cette idée, à l'époque en 2019, très contestée. Glucksmann aujourd'hui convient qu'il n'a pas fait une campagne de dingue en 2019, qu'il y avait plein de fautes, qu'il est parti trop tard. Donc il a tiré tous les enseignements de ça pour dire voilà, donc là, je vais me réassocier avec le PS. Pourquoi ? Parce que le Parti Socialiste, c'est pas forcément sa came, mais c'est un parti qui a des militants, qui a une force de frappe, donc il est un peu en train de phagocyter, d'utiliser, c'est un peu le coucou qui se met dans le nid du PS. Mais ça arrange absolument tout le monde. Et petit à petit, il fait son nid et il joue, il bénéficie d'un truc, c'est qu'il dit souvent, moi, ma radicalité, je ne la mets pas dans des propos, je la mets dans les propositions. C'est quelqu'un qui dit, je pars toujours du fond parce que j'ai un corpus idéologique hyper solide et donc je pars de ça. Et après il dit, il faut faire campagne, les temps qu'on vit sont tragiques, mais il faut faire campagne de façon enthousiaste. Donc il a une grande chance dans cette campagne, c'est qu'il a face à lui Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon, qui sont un peu les cavaliers de l'apocalypse, qui nous promettent une noirceur absolue, et lui dit, les temps sont graves, mais allez, on peut y arriver, on peut s'en sortir. Donc il capitalise là-dessus. Et on dit souvent, on va dire les choses, que Glucksmann, c'est un peu le candidat des médias, que c'est le candidat de la rive gauche de Paris, des bobos parisiens. J'ai beaucoup parlé ces derniers jours à des élus de base du PS. Glucksmann, ce n'était pas vraiment leur cam en 2019. Aujourd'hui, bon, ça se discute encore un peu. Mais ils disent, on est frappé d'un truc sur le terrain. Quand on va tracter le week-end, les gens viennent chercher les tracts.
Voilà. Ça fait longtemps que ça leur est pas arrivé.
Ils disent, il y a une curiosité et dans les salles, il y a du monde. Donc ça, c'est des petits signaux faibles. Ça ne veut pas dire grand-chose à ce stade. On sait très bien qu'une campagne, ça peut se retourner. Mais malgré tout, on voit qu'il y a une petite dynamique et qui n'est pas une dynamique purement parisienne.
Moi, je crois que ce qui joue aussi pour Raphaël Glucksmann, ce que les enquêtes nous montrent, c'est que la question de l'Ukraine est importante dans cet électorat. Et du coup, les électeurs de gauche qui étaient sur Jean-Luc Mélenchon en 2022, eh bien, une partie sur la question de l'Ukraine rejoignent Raphaël Glucksmann. Et puis, il a un autre apport qui vient d'électeurs de centre-gauche qui étaient sur Emmanuel Macron et qui vont également sur lui, cette fois-ci pour d'autres raisons, parce que l'Ukraine, c'est important, l'électorat également de Macron, pour les raisons liées à la réforme des retraites. retraites et à l'immigration. Donc il est au confluent de ces deux flux. Mais ce qui fait que ça fonctionne, je crois, c'est qu'il y a une ligne idéologique et une posture qui sont claires. Mélenchon, il y a une ligne. Glucksmann, il y a une ligne. Elles sont identifiables et identifiées par l'opinion, par les Français. Vous adhérez, vous n'adhérez pas, c'est encore une autre, un autre
vous
sujet.
Vous pensez qu'il est identifié aujourd'hui clairement par les Français sur ce qu'il défend ?
Votre question, c'était, est-ce que par rapport à François Hollande, c'est un peu la même famille ? Oui, c'est la famille social-démocrate, héritière d'une forme de gauche morale aussi. Mmh. D'ailleurs, quand il cite Delors ou Badinter, c'est pas totalement étranger à cette filiation. Il est sur des convictions que la politique internationale, c'est un enjeu majeur et qu'il y a des droits, donc le progressisme, les droits humains, etc., qu'on doit défendre. Il est moins naïf qu'en 2019, ça c'est tout à fait clair, mais c'est une ligne. Et puis j'ai envie de dire, le contraste aussi entre ces deux gauches, je ne sais pas si elles sont irréconciliables ou pas, mais elles sont différentes, on le voit dans la posture. Il est effectivement dans une campagne positive, il est souriant, etc. Il n'est pas dans le bruit et la fureur de Jean-Luc Mélenchon. Donc ça, les électeurs le perçoivent, et ensuite ils font leur choix.
Et avec une forme de dynamique, les sondeurs parfois parlent de dynamique quand les chiffres sont à la hausse, est-ce qu'on est dans quelque chose qui là pour
non, moi je ne dirais pas encore que c'est une dynamique, parce qu'une dynamique, c'est un mouvement continu et qui va en s'accélérant. Et là, ce que vous avez, ce sont des flux, donc qui sont encore susceptibles de bouger. Il y a des électeurs qui peuvent repartir vers Macron s'il y a une meilleure mobilisation, peut-être aussi, j'en doute, mais vers la France insoumise. En tous les cas, les écologistes que Glucksmann a aussi bien siphonné, parce que c'est une des différences avec François Hollande, il est beaucoup plus sensible et il porte beaucoup plus la question environnementale, Glucksmann. Mais il y a des flux à l'intérieur de ce grand bloc-là, qui va du centre-gauche jusqu'à la France insoumise, qui peuvent encore bouger. La dynamique, elle se confirmera si vraiment dans 15 jours, 3 semaines, on a toujours un 13%, voire davantage. Là, effectivement, quand c'est parti, c'est parti.
Écologiste et féministe, puisque c'est une de ses déclarations de ces derniers jours. Il a dit qu'il veut imposer le féminisme dans cette campagne des européennes.
Oui, je trouve que c'est très fort parce qu'effectivement, à chaque fois qu'il fait une déclaration comme ça, il est sur des axes qui sont très concernants, par exemple pour les écologistes, par exemple sur la France insoumise qui effectivement a beaucoup souffert de l'affaire Quatennens. Donc en fait, il arrive à capitaliser là-dessus. Et moi, ce qui me frappe, c'est que non seulement ce qu'il propose est assez clair, voilà, il est européen, etc., mais en plus, il fait une campagne d'une très grande proximité. Il y a plusieurs déplacements de tous ses membres d'équipe par jour dans des terrains extrêmement reculés. Donc ça fait beaucoup d'articles dans nos journaux de presse quotidienne régionale. Et honnêtement, c'est pas neutre. Et il est, quand il fait des meetings, donc des meetings assez moyens, hein, 1000, 1500, 2000 personnes, dans des salles de ville de gauche, Nantes, Clermont-Ferrand, etc., les élus locaux que j'ai eus après me disent oh, « c'est dingue, on a revu des gens ». Donc ça veut dire qu'il redonne une certaine fierté au Parti Socialiste, aux militants de gauche sympathisants socialistes, qui avaient totalement oublié que le Parti Socialiste existait et qui n'étaient pas dans la campagne en 2022, puisque Anne Hidalgo a souffert effectivement d'une manque de militants. Et là, les gens y sont revenus et il arrive à cristalliser à la fois ceux qui sont pro-NUPES et ceux qui étaient anti-NUPES. C'est-à-dire qu'à la fois les fauristes et les delgaïstes.
C'est pointu pour ceux qui nous regardent. Donc, Olivier voilà. Faure et Carole Delga.
Non, mais ça veut dire qu'effectivement, le PSA est clairement aussi l'appareil, en tout cas, dans l'après, dans l'après 9 juin, le 10 juin, où on sent qu'il va y avoir quelque chose qui va
Est-ce que le scénario dans Raphaël Glucksmann, devant la candidate Valérie Hayer, qui porte les couleurs de la Macronie, commence à être envisagé sérieusement au sommet de l'État, du côté de l'exécutif et des députés, etc., macronistes.
Oui, c'est une inquiétude pour évidemment les députés macronistes et la majorité qui cherchent son positionnement dans cette campagne, qui ne l'a pas encore bien trouvé. Moi, je trouve la campagne, elle a démarré avec quelque chose de très axé contre le Rassemblement national. Puis ensuite, on a eu d'autres axes par rapport à Glucksmann qui commençaient à inquiéter. Et en fait, elle tâtonne cette campagne. C'est pas simplement parce que sa tête de liste est peu connue, c'est le positionnement aussi qui est plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'en 2019, vous aviez une incarnation pro-européenne, elle s'appelait la liste Macron. Une incarnation anti-européenne, c'était la liste RN. Mais là, il y a deux incarnations pro-européennes, Macron et Glucksmann. Ouais. Donc c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Et c'est ça qui fait que l'inquiétude commence à être forte.
Et ce serait un coup dur, c'est évidemment pour la Macronie, d'arriver en troisième position.
Ça serait
un cataclysme.
Là, sincèrement, si voyez, si la liste Glucksmann était devant la liste Ayé, ce serait véritablement un séisme, oui. Et ça posera la question de le vrai rendez-vous, c'est le 9 juin, c'est bien ça. Évidemment, mais aussi le 10 juin.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe
Qu'est-ce
après
qui se passe le 10 juin,
ouais. Un éclairage peut-être sur les chiffres. Alors, je me fonde sur l'enquête qu'on a en commun, ouais. Ipsos Fondation Jean Jaurès. Le panel, alors, est sorti il y a 3 semaines, mais globalement, on voit bien que Glucksmann est plutôt dans une fourchette de 11-12 et que Valérie Ayé est dans une fourchette de 17-18. Je tempère un peu les analyses. D'accord. Du moment. Valérie à 17-18, c'est-à-dire la représentante du camp présidentiel à 17-18 après 7 années d'exercice du pouvoir et 7 années d'usure du pouvoir.
C'est pas si mal ?
Moi, j'ai plutôt tendance à dire, d'accord, c'est pas si mal. A fortiori, après une année 2023 absolument calamiteuse, avec la réforme des retraites et la loi immigration. Donc je dirais, en fait, être à 17-18, à ce stade, effectivement, c'est pas si mal. Mm-hmm. Si je peux terminer juste là-dessus, le problème, c'est que c'est pas une France en miniature. C'est pas 18% de la France pour de vrai, c'est une France en décalage total avec la réalité sociale du pays. C'est les très âgés, ce sont les très âgés et les très aisés. Les deux tiers des électeurs ont plus de 60 ans et des revenus tout à fait considérables. Donc ce n'est pas du tout une France en miniature, c'est une France en décalage. Et précisément, les motifs d'éloignement ont été multipliés au cours des derniers mois. Et une partie d'ailleurs des macronistes de gauche sont partis vers Raphaël Glucksmann à cause du renoncement écologique, à cause de la loi immigration. Ils ont perdu le monde du travail à cause de la réforme des retraites. Et pardon, dernière chose, ils ont perdu une partie de l'électorat féminin à cause de l'affaire Depardieu et des commentaires que Emmanuel Macron en a fait.
Il garde tout ceux ça, qui votent.
Alors, il garde ceux qui votent, absolument. Et un deuxième bémol, Raphaël Glucksmann est à 11-12, c'est super. En tout cas, c'est beaucoup mieux que le score d'Anne Hidalgo il y a 2 ans. C'est beaucoup mieux que le score de Benoît Hamon il y a 7 ans. Et c'est y compris mieux que son score à lui d'il y a 5 ans. Sûr. Mais 11-12, si je puis me permettre, rappelons les élections de 2014. À l'époque, François Hollande avait subi l'usure du pouvoir pendant 2 ans uniquement et le PS était à 14. Donc, les 14% de Hollande en 2014 sont à comparer aux 18% d'Emmanuel Macron aujourd'hui et aussi aux 11-12 de Raphaël Glucksmann.
Oui.
Non, malgré tout. Alors d'abord, lundi, on aura une autre vague de notre enquête.
Okay. On verra. On saura.
Mais on saura.
On en reparle
mais
lundi.
Surtout, même si effectivement vous avez raison de rappeler que le contexte est très difficile pour la liste du gouvernement, malgré tout, et même si ça se terminait à 17% pour la liste Ayé, on comparera par rapport aux résultats de 2019. Et les résultats de 2019, ils étaient quand même bien meilleurs pour la liste macroniste, et surtout l'écart avec le RN était d'un point, alors que là, il pourrait être de 7, 10, 12 points.
Et le président va se lancer dans la campagne jeudi? Oui, avec un discours à la Sorbonne.
C'est bien le signe qu'il y a un petit peu le feu au lac. Puisque...
Ce n'est pas un discours à la Sorbonne, c'est un discours sur le modèle de ce qu'il a fait à la Sorbonne.
Voilà, exactement. Parce qu'il avait fait un premier discours à la Sorbonne sur l'Europe, sur l'ambition européenne, donc en 2017. Et là, c'est le rendez-vous bilan, puisqu'il avait donné rendez-vous en 2024. Et puis, c'est aussi une façon, c'est la grosse Bertha qui arrive dans la campagne, parce qu'il faut essayer d'écraser un peu les choses. Et on verra. Mais il y a aussi une chose qui joue beaucoup dans une campagne européenne, c'est le temps de parole. Et forcément, le président de la République, son temps de parole n'est pas comptabilisé comme tout le monde. Vous savez bien que la liste de Raphaël Glucksmann, au même titre que les petites listes, entre guillemets, ont moins de temps de parole. Donc là, on va se retrouver face à un rouleau compresseur macroniste. On peut imaginer que le Premier ministre Gabriel Attal va aussi intervenir potentiellement en débat contre Jordan Bardella. Donc, par effet de saturation médiatique, ça peut maintenir sous respiration artificielle sa liste.
On en parlait rapidement tout à l'heure, c'est la série qui agite la classe politique. Elle s'appelle La Fièvre, écrite par Éric Benzekri, ancien militant de gauche qui a collaboré avec Jean-Luc Mélenchon dans cette série qui suit une pro de la communication dans une France au bord de la guerre civile, avec des opinions manipulées par les réseaux sociaux, écartelées par des débats identitaires. La Fièvre est devenue une sorte d'objet politique, alors prémonitoire, c'est la question que posent certains. Juliette Perrault avec Lucas Campissi et David Lemarchand.
Je suis François Marins, le président du Racing, le club de foot. On m'a conseillé de vous appeler parce que j'ai un joueur qui a mis un coup de tête à mon coach au trophée du foot.
Une insulte raciste lors d'une altercation entre un joueur de foot et son entraîneur. Et voilà la France plongée dans le chaos.
Ce soir,
c'était en 6 épisodes, la série La Fièvre raconte l'embrasement de l'opinion au temps des réseaux sociaux. Une fiction très réaliste, un avertissement assumé par le scénariste.
Nous sommes collectivement en danger. Et donc, il faut individuellement réagir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire individuellement réagir? Ça veut dire, comme dirait l'autre, savoir s'empêcher, même quand on a la haine, même quand on est victime d'injustice. Des fois, il faut être capable de garder la tête froide individuellement quand tout le monde a la fièvre.
Moi, je la connais bien, vous savez, elle cherche l'affrontement.
Une fièvre alimentée dans la série par le personnage de Marie Kinski, une influenceuse d'extrême droite qui souffle sur les braises des ressentiments identitaires.
D'habitude, ils y célèbrent le black blanc beurre entre millionnaires pour nous vendre leur mythe du football qui fait nation. Mais ce soir, c'était le 11 septembre de leur vivre ensemble.
Face à elle, une spécialiste de la communication de crise, Sam Berger, chargée d'éteindre l'incendie.
La durée d'une crise médiatique, c'est 72 heures. Donc dans plus ou moins 68 heures, vous en serez à peu près sorti. Puis on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Un jeudi noir à Wall Street, un nouveau Fukushima, un séisme au Népal, et là, on passe en second rideau.
C'est à peu près la même méthode que Baron Noir. Mmh. C'est d'essayer de rentrer au plus près des mécanismes de la société, qu'elle soit médiatique, politique. Voilà, donc c'est un travail assez précis qu'on a essayé de faire.
Des mécanismes si réalistes que la Fondation Jean Jaurès a publié un essai sur la série, quelques semaines seulement après sa sortie. Parmi les personnalités politiques qui y ont participé, le député socialiste Arthur Delaporte, qui voit tout de même un décalage entre la fiction et la réalité.
Ce que je constate dans la série, c'est que globalement, le politique, le responsable politique, est presque affaibli ou impuissanté, et qu'on a l'impression que ce sont uniquement des communicants qui tirent les ficelles. Dans la politique réelle, ce n'est pas ça, et heureusement, et je pense que c'est aussi ça ce qui distingue la série de la réalité.
Mais parfois, la frontière s'estompe. En novembre dernier, la mairie de Nantes s'est retrouvée plongée dans une polémique après avoir installé des décorations de Noël contemporaines dans la ville.
Des chroniqueurs sur les chaînes d'information en continu, des animateurs de divertissement et puis surtout des responsables politiques d'extrême droite, pour dire les choses de manière claire, ont décrété qu'à Nantes, Noël était mort. Ce mensonge éhonté est devenu répétition, 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 alors qu'il y avait sapin de Noël, Père Noël, etc. Mais au-delà de ça, ça a été une espèce de match de ping-pong avec une balle renvoyée entre des médias qui ont asséné ce récit et une fachosphère extrêmement organisée sur les réseaux sociaux.
Une controverse qui s'est éteinte avec le temps, mais qui aurait peut-être pu faire un bon point de départ pour une série comme La Fièvre.
Je pensais que je m'en sortirais.
Avec la trame de la série qui est « La France est-elle à la veille d'une guerre civile ?»
Oui, absolument. Alors, la question est de savoir si précisément c'est prémonitoire, c'est-à-dire que si
c'est ça.
Benzekri pense que nous sommes dans une pré-guerre civile, ouais. Ou si précisément en faisant une série là-dessus, il alerte l'opinion sur le fait qu'il est encore temps d'éviter la guerre civile.
On précise juste que Malika Sorel, numéro 2 sur la liste du RN pour les élections européennes, dit cette phrase « La guerre civile, elle a déjà commencé.
Oui.
À bas bruit, la politique doit en prendre la mesure. »
Alors, ça fait un peu longtemps qu'on baigne dans ce diagnostic-là. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est à minima le titre. J'ai regardé la série, je suis un peu nuancé sur ce que j'en pense. Mmh. Le titre est intéressant. Parce que ça, pour le coup, l'histoire française, ouais. Comme celle d'un peuple enfiévré, capable de se laisser aller, en tout cas de se soumettre à quelques colères régulières, des éruptions, ça c'est réel. Et c'est réel, y compris pour le passé très récent. C'est-à-dire, sous le règne d'Emmanuel Macron, on aura connu une succession de colères comme jamais. On aura eu la colère des gilets jaunes, de la France périurbaine, la colère du monde du travail, la colère des banlieues, la colère des agriculteurs. On a ces colères-là.
Et la colère des politiques aussi. On revient au début de notre discussion avec parfois de l'outrance qui enflamme le débat politique.
Oui, absolument. La colère est très présente. Ce qui est malgré tout intéressant dans les colères que je venais d'évoquer, les colères que la France a traversées au cours des années, c'est que ce sont quand même des colères en réalité sociales, pas des colères identitaires. Là, pour le coup, on est sur autre chose et le pari, ou en tout cas le propos de la série, c'est de dire les fractures identitaires sont aujourd'hui telles que la prochaine guerre civile, celle qui nous est promise, aurait celle-ci pour fondement. Mmh. Je ne nie pas le fait que les questions identitaires soient très présentes, en particulier dans le débat politique, qu'elles aient permis précisément à l'extrême droite de se positionner comme une force centrale, une force politique centrale. En attendant, encore une fois, dans les éruptions de colère récentes, la question identitaire n'a jamais été ni centrale, ni même périphérique.
C'est intéressant ce qui vient d'être dit sur le terreau des colères. C'est vrai que quand on écoute certains élus, quand on suit certains faits divers, on voit bien que l'actualité est brassée régulièrement autour de ces colères-là, de ces indignations, de cette émotion-là. Et en même temps, c'est pas forcément ce qui enfièvre le pays. Quand on voit des grandes mobilisations dont on vient de parler.
Quand vous voyez les préoccupations des Français, ce sont des préoccupations avant tout économiques et sociales, ouais, avant d'être identitaires. Simplement, vous avez des responsables politiques qui ont bien compris qu'il était plus facile de répondre à des enjeux identitaires que de répondre à des enjeux économiques et sociaux. Parce que là, tout ou presque a été fait, dit que les Français sont saturés, n'y croient plus, etc. Donc vous changez de terrain de jeu et vous allez sur le terrain qui est un piège mortel, le terrain de l'identité. Et ça peut marcher. Quand vous demandez aux Français aujourd'hui si entre la crise environnementale, la crise économique et sociale ou la crise identitaire, en précisant ce qu'on met, oui, derrière ces expressions, quelle est la plus importante, non seulement c'est bien dispersé, mais la crise environnementale a baissé et l'idée qu'il y ait une crise identitaire a progressé. Et on est à des niveaux qui ne sont pas majoritaires, hein, il ne faut pas, ouais, non plus inverser les choses, mais à des niveaux importants. Mais c'est un travail permanent de politiques qui mettent la focale sur les enjeux identitaires, j'ai envie de dire parce qu'ils ne savent plus résoudre les enjeux économiques et sociaux.
Parce qu'ils considèrent qu'il y a un problème ?
Qu'il y a un problème aussi, mais vous pouvez très bien dire qu'il y a un problème identitaire, il y a des problèmes économiques et sociaux. Simplement, si vous êtes binaire ou nuancé, ça ne passe plus. Donc ils choisissent, chacun choisit son angle. Mmh. Et on voit très bien que Jean-Luc Mélenchon est passé à une époque, vous l'avez rappelé, où il avait un discours de gauche, laïque, et de gauche à ce moment-là, classe sociale, combat contre les inégalités, à des enjeux identitaires, discrimination, minorité, etc., etc. C'est autre chose, mais c'est parce que vous changez de terrain d'affrontement.
Est-ce qu'il y a encore des partis qui ne le font pas ?
De moins en moins. De moins en moins, le bloc qu'on pourrait qualifier de central, allant d'une partie du PS jusqu'à une partie de la droite, essaye d'être dans autre chose que les questions identitaires, mais a compris aussi qu'il devait prendre en compte ces questions identitaires, dont je ne nie pas la réalité. Il y a aussi des enjeux qui relèvent de...
Quand on dit questions identitaires, d'ailleurs, pour être très précis pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'il faut mettre derrière, à votre avis ?
C'est une très bonne question, parce que qu'est-ce que les Français mettent ça ? Beaucoup de choses, ouais, et un peu de nature différente.
Ouais.
La question de l'ordre, tout simplement. La question des repères, la question de l'acceptation d'un certain nombre de règles communes pouvant aller de la laïcité à un certain nombre d'éléments sur la discipline à l'école, le respect d'un certain nombre de fondamentaux. La question de l'immigration aussi, de l'intégration ou de la régulation de l'immigration, c'est un peu tout ce sac qui est posé comme faisant partie des questions identitaires. Et ce sont des vrais sujets.
Dans les soubresauts qu'on a connus dans le décennat, presque décennat d'Emmanuel Macron, il y avait les émeutes aussi. Mm-hmm. Les émeutes de juillet, qui pour le coup étaient une crispation qui était, je ne sais pas si on peut la qualifier d'identitaire, mais qui s'en rapprochait pour partie. Donc c'est assez intéressant que la série s'empare de ces questions-là. C'est marrant de voir à quel point les politiques sont fans. Il y a certains politiques nous disent qu'ils sont captivés par la série parce qu'en fait...
Alors qu'ils sont absents de la série. Il n'y a pas un politique dans la série.
Ça va de Najat Vallaud-Belkacem à David Lisnard qui vous disent, tous les deux, qui regardent la série et qui l'aiment bien, en tout cas qu'elle est captive. Pourquoi ? Parce que ça vient faire écho à un discours que beaucoup tiennent depuis des mois sur « attention, on danse sur un volcan ». Voilà, donc on est en situation pré-insurrectionnelle, d'où ça va partir, on n'en sait rien, ça peut jaillir de n'importe quoi, mais tous ont peur et se disent « mais... pourvu que ça pète presque avant 2027, parce que sinon c'est dans les urnes que ça va péter, quoi.
C'est la grande victoire, pardon, culturelle et idéologique, en fait, de l'extrême droite, que d'avoir réussi à imposer la question identitaire au centre du débat depuis plusieurs décennies. Une petite orientation avait quand même été donnée par Nicolas Sarkozy, qui avait créé un grand ministère de l'identité nationale et de l'immigration. Donc on voit bien qu'il y a eu dès le départ une volonté de confondre la question identitaire, la question migratoire, la question sécuritaire. Un dernier petit mot, ce qui est intéressant, si on prend un tout petit peu de recul, c'est qu'il y a deux batailles culturelles ou deux victoires culturelles qui ont été remportées au cours des dernières décennies, celle sur la question identitaire par l'extrême droite, qui en a fait précisément un élément de victoire politique, c'est-à-dire qu'il se rapproche du pouvoir. L'autre, c'est l'écologie, qui désormais en fait est un incontournable, que plus personne ne nie, sans que les écolos aient réussi à transformer ça en une victoire
Nathalie
politique.
Morel, bien,
ce qui est intéressant dans La Fièvre, c'est que la série montre très bien qu'il n'y a plus de place aujourd'hui dans la société pour la nuance. C'est-à-dire que vous êtes sommé d'être dans un camp, celui du non ou celui du oui, celui du noir ou celui du blanc, mais le gris foncé et le gris clair n'apparaît quasiment pas. Et on voit comment il y a tout un travail de cette jeune femme qui s'appelle Sam Berger dans la série pour essayer de voir comment on peut manipuler l'opinion dans un sens ou dans un autre. C'est Sam Berger pour l'analyse de l'opinion et l'autre comédienne pour justement la manipulation de l'opinion. Et on voit, et si les politiques sont absents de la série, c'est justement qu'ils sont complètement à la remorque de ça, et qu'ils essayent de trouver les façons d'imposer les idées, sauf que les slogans sont plus forts que les idées.
Donc elle est devenue inspirante, vous diriez, cette série pour certains politiques.
Elle est inquiétante.
Inquiétante,
ça, ouais. C'est sûr, et inspirante, bon. On verra.
Il y a une fascination pour la manipulation et le cynisme. C'est aussi ce que...
Aussi. Allez, nous revenons maintenant à vos questions. Marc en Moselle, est-ce qu'interdire un débat dans une université est un signe de bonne santé dans notre démocratie ?
Clairement non. Non, c'était pas une bonne idée.
Indispensable.
Mais Macron a eu raison de sortir publiquement, de faire des déclarations pour dire que c'était une très mauvaise idée. D'ailleurs, la preuve étant que ça sert Jean-Luc Mélenchon et sa stratégie.
Mélenchon fait du Trump, c'est la stratégie populiste classique du « je suis une victime ». Erol qui nous pose cette question, qui est en Dordogne. Oui.
C'est celle qu'a endossé très longtemps l'extrême droite, du temps de Jean-Marie Le Pen, plus récemment de Marine Le Pen. Et effectivement, désormais, il y a une petite inversion. Jean-Luc Mélenchon est devenu effectivement l'élément répulsif, l'élément repoussoir en fait, du paysage politique français. C'est ce qui fait qu'on parlait d'antisémitisme tout à l'heure. Quand il y a une marche contre l'antisémitisme dans ce pays, désormais la gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon n'y a plus sa place, alors que l'extrême droite, qui ne s'était pas battue contre l'antisémitisme de toute éternité, désormais peut y défiler tranquillement.
Alain, dans le Val-de-Marne, au sein de LFI, y a-t-il des dissidents hostiles aux propos de Jean-Luc Mélenchon ?
Oui, on en a parlé à plusieurs reprises. Effectivement, il ne fait plus l'unanimité au sein de son propre parti. Et c'est d'ailleurs pour ça que des personnalités comme François Ruffin peuvent émerger.
Au sein de LFI, au sein de LFI, y a-t-il des dissidents hostiles aux propos de Jean-Luc Mélenchon ? On l'a déjà vu celle-là ?
Oui.
Allez, une autre. Avec Ruffin et Glucksmann, faisons-nous face à une renaissance de la gauche ?
Ça se voit dans les sondages. Pour l'instant, effectivement, on voit bien que le Parti Socialiste et Palace Public multiplient son score par 6 par rapport à la dernière présidentielle dans les sondages. Après, il faut se calmer parce que le total gauche reste quand même assez bas. Donc par rapport au Rassemblement National.
Vrai, c'est un petit tiers, un bloc de gauche qui ne pèse qu'un petit tiers. Un bloc à la droite de la droite, à l'extrême droite, qui est plutôt proche des 40%. Si vous additionnez Marion Maréchal, Jordan Bardella et puis Florian Philippot, etc. Et puis un bloc central lui-même divisé. Donc le bloc de gauche existe, il n'a jamais disparu, mais il est quand même très affaibli et fragmenté.
Oui, mais au sein de la gauche, beaucoup parlent de printemps de la gauche, en disant qu'il y a des petits bourgeons qui commencent. Et donc je fais le pari qu'on va voir beaucoup François Hollande dans les prochains
temps.
Je crois que lui se dit, bon, c'est le printemps, les étoiles s'alignent.
C'était pas très gentil ce qu'il vient d'être dit à ma droite, je ne vais pas le répéter. Mélenchon dit que Macron fait le jeu du RN, ne serait-ce pas l'inverse ? Mélenchon dit que Macron fait le jeu du RN, ne serait-ce pas l'inverse ?
Le RN qui fait le jeu de Macron, ça semble quand même un petit peu difficile parce que Macron est très affaibli. En revanche, peut-être que votre téléspectateur veut dire, est-ce que c'est pas Mélenchon qui fait le jeu du RN ?
C'est
tout ce que je comprends. Bon. D'une certaine façon, oui, puisque comme vous l'avez dit, c'est presque aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon qui est le Jean-Marie Le Pen d'il y a 20 ans, parce qu'il suscite comme réprobation ou hostilité. Et Marine Le Pen qui, au contraire, est plus maligne de ce point de vue.
À votre avis, il y a une indifférence, au fond, au bruit et à la fureur, comme il l'avait théorisé à un moment donné ?
Non, il n'y a pas une indifférence.
À ce qu'il dit, il énerve.
Il fait peur.
Il fait peur. Il fait peur.
Encore une fois, inquiétude, honte.
Il est désormais considéré comme plus dangereux que Marine Le Pen.
Oui.
C'est quand même un record. Enfin,
ils n'ont rien à proposer sur le plan économique, rien que du désordre et la falsification de l'histoire. Valérie dans le Rhône, qui parle sans doute de la France insoumise.
Ah bah c'est pas, il joue pas sur le credo économique. Pour le coup, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il s'est emparé à un moment des questions sociales, mais il a compris qu'il n'avait plus rien à gagner d'un point de vue électoral là-dessus, pour l'instant.
Quel rôle Mélenchon a-t-il concrètement au sein de LFI ? Il est censé être...
C'est lui qui influe tout. Il reste quand même le leader, même s'il ne l'est pas dans les faits.
Dans un fonctionnement de parti absolument pas démocratique, un fonctionnement de mouvement qui n'est absolument pas démocratique. Le paradoxe, c'est qu'on puisse proposer la 6e République et par ailleurs verrouiller son appareil de façon totalement antidémocratique.
Pourquoi la gauche traditionnelle, le Parti socialiste de Hollande, s'est-elle complètement effondrée ? Bon, là, vous nous parliez de printemps, donc...
Alors, effondré, oui, c'est un espace politique qui est très, très, très convalescent, mais qui se dit que si Raphaël Glucksmann faisait un score, peut-être que ça pourrait permettre d'entamer une reconstruction, une nouvelle NUPES, mais sans Mélenchon.
Le président de l'Université de Lille a-t-il pris cette décision sous la pression du gouvernement ?
Alors là, je me garderai bien de ne le dire. En tout cas, c'était sans doute une très grosse erreur.
La France insoumise attaque Raphaël Glucksmann. Ne se trompe-t-elle pas d'adversaire ? C'est vrai que depuis quelque temps, elle cible clairement le candidat à Place Publique.
C'est intéressant parce que dans une campagne électorale, vous avez un adversaire et vous avez des concurrents. Et la France insoumise, au lieu de désigner son adversaire, qui ne devrait pas être quand même dans l'espace des gauches, fait de Glucksmann son adversaire prioritaire parce que la France insoumise a bien compris le danger pour elle d'une captation de son électorat.
Une dernière question psychologique pour terminer. terminer, Alain, dans l'Essonne, qu'est-il arrivé à Jean-Luc Mélenchon? Ses propos ne sont-ils pas plus, sont-ils de plus en plus extrêmes depuis une dizaine d'années?
Alors, dans sa conférence hier, il a dit « On m'a couché plusieurs fois sur le divan, des journaux se sont chargés de le faire, donc je m'abstiens de répondre à votre question. »
Allez, une dernière question peut-être, celle-ci. Les candidats de la liste LFI subissent-ils des intimidations politiques et médiatiques depuis plusieurs mois?
Alors, de ce que vous en savez, honnêtement, l'ensemble des personnels politiques subit des pressions et c'est un petit peu dur pour tout le monde.
Eh bien, merci à vous tous. On se retrouve demain en direct dès 17h30. Très belle soirée à vous. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.